Radio Okapi.
Les informations grâce à Mzati Masanzi. À la une de l'actualité, la ministre de l'Éducation nationale soutient la poursuite des enquêtes pour établir les responsabilités sur le meurtre des élèves dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu et au lycée Madame Le Sévigné de Kinshasa. En Ituri, 7 miliciens de la Codeco tués, une dizaine d'autres blessés ainsi que plusieurs armes récupérées. Bilan provisoire des opérations militaires en cours menées par les forces armées de la RDC dans le secteur de Banyali-Kilo dans le territoire de Djougou. Le président du site des déplacés de Don Bosco au nord de la ville de Goma est l'invité de la rédaction ce soir. Justin Kamana parle des difficultés d'accès à l'eau potable depuis 2 mois dans ce site. Une situation qui expose les déplacés à l'épidémie de la variole des singes. Bonsoir. Commençons par les violences au sein des écoles en RDC. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, s'est dit profondément consternée par des faits qu'elle juge odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé, notamment au Nord Kivu et ici à Kinshasa. Dans un communiqué officiel dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce vendredi, Raissa Malou soutient les enquêtes afin que toute la lumière soit faite. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Le meurtre d'un élève adolescent par un homme armé dans le territoire de Nyiragongo, Nord Kivu d'une part, et d'autre part le décès d'un élève de 8e année poignardé au lycée Madame de Sévigné à Limété et d'un autre grièvement blessé à la suite d'un acte de violence perpétré par leurs camarades de classe ici à Kinshasa, laisse sans voix Madame Raissa Malou. La ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté ne peut s'expliquer un tel niveau de violence en milieu scolaire où les enfants vont pour apprendre les valeurs qui fondent la société et les relations humaines, atteste le communiqué. Pour Raissa Malou, je le cite, « Les écoles doivent être des lieux sûrs pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. Nous ne pouvons tolérer aucune violence, qu'elle soit interne ou externe, aux établissements. » Fin de citation. Enfin, tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, Madame la ministre d'État soutient la poursuite des enquêtes en cours et que les responsabilités soient clairement établies afin de permettre aux instances compétentes de prendre les mesures qui s'imposent.
Justement à ce sujet, notez l'ouverture du procès d'instruction ce vendredi au tribunal pour enfants de Kinshasa Matete. C'est en rapport avec la mort de l'élève et la blessure d'un autre, dégât causé par leurs camarades de classe à l'école Madame Le Sévigné, délimité tel que Jacques-Yves Molima Aouta vient de nous expliquer. Ce drame s'est produit le mercredi. Selon la loi, la presse et le public ne peuvent pas assister au procès qui se tient à huis clos car c'est une matière pénale. N'est-ce pas, Étienne Lesumbo?
Les familles, les journalistes et certains avocats sont interdits d'accéder à la salle d'audience sur instruction de la juge présidente. Le départi ainsi que l'école étaient représentés. À la sortie de la salle, Honoré Yenge, un des avocats de la victime, précise que l'enfant est mort à l'école.
Vous avez vous-même des images, voire même aussi des vidéos, qui montrent à suffisance que le corps de l'enfant jussait déjà dans l'école. Vous savez, dans l'école, il n'y a que 5 litres de sang. Et lorsque vous perdez déjà une grande quantité, quand on vous amène devant le médecin ne constatera que l'effet.
Charles Chunza, un des collectifs des avocats de la partie Ali Hassan, précise sur le lieu de la mort de l'enfant.
L'enfant est décédé en cours de soins, durant ses soins à l'hôpital. L'hôpital sera révélé au moment opportun devant le juge.
Soulignant que le procès reprend le vendredi 20 septembre prochain.
Par ailleurs, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier ici à Kinshasa la toute première réunion interinstitutionnelle de l'année. Le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature y ont pris part. Plusieurs sujets ont été débattus, c'est notamment ceux relatifs à l'économie, au social, à la justice, à la politique et à la sécurité. Concernant les questions économiques, le président de la République est revenu sur son souci de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. D'autres détails avec Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, dans cet extrait sélectionné pour nous par Jean Gano.
Le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, accélérée, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent plus que le plus grand. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État.
Sécurité à présent. 7 assaillants de la CODECO neutralisés et plusieurs de leurs armes récupérées. C'est le bilan provisoire des opérations militaires en cours menées par les forces armées de la RDC dans le secteur de Banyal et Kilo, dans les territoires de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon des sources sécuritaires, 3 militaires ont également perdu leur vie lors des combats qui ont permis au FRDC de récupérer les villages de Bianda. Le chef de groupement de Mabilendei encourage l'armée à poursuivre ses opérations pour libérer toutes les localités occupées par la CODECO dans son entité. Le récit de Martial Kiza Biamongo.
C'est depuis une semaine que les FARDC ont lancé les opérations de traque des éléments de la CODECO dans les groupements Mabilendei à l'ouest de la commune rurale de Mungwalugu. Selon des sources sécuritaires, l'objectif pour l'armée est de déloger ses assaillants dans tous les villages de ces groupements qu'ils occupent depuis plusieurs mois. La même source avance que 7 assaillants ont été neutralisés par les FARDC et 13 autres blessés. Ces derniers ont été amenés par leurs compagnons d'armes à Andissa, Mbaou et Nyangaraï. Du côté de l'armée, des sources militaires parlent de 2 soldats qui sont tombés au champ de bataille et 3 autres blessés. Le chef du groupement Mabilendei joint au téléphone de Sali ces efforts de l'armée qui, selon lui, vont permettre aux habitants qui avaient fui les milliers de retourner dans leur village.
Qu'il continue à frapper ses assaillants jusqu'au bout pour qu'il libère nos entités afin que la population regagne leurs milliers. Les villages qui restent pour que les militaires arrive à Galaï, c'est Mayalibode et Ariwar.
5 villages sont déjà récupérés par les forces loyalistes depuis le début de ces opérations. Bounia, Martial Kiza Biamongo, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, l'insécurité est devenue croissante dans la ville de Kisangani. Une dizaine de maisons ont été cambriolées par des hommes armés non autrement identifiés depuis le début de cette semaine. La commune de Kabondo et les quartiers Plateau Boyoma et Médical dans la commune de Makiso sont les plus affectés. Une des victimes, le président du conseil municipal de Makiso, témoigne. Komete Maboko Yoka est au micro de Jacques Mukonkole.
J'ai découvert qu'on a tout volé dans la maison, même du sucre, du lin, des lins de beauté, du parfum, des savons, des marmites. Les habits n'en parlent même pas, ils ont rassemblé tout. La première des choses, j'avais senti un peu comme un coup de foudre. Et à un moment donné, je me suis ressaisi, je me suis entré dans la chambre, j'ai prié, j'ai remercié l'Éternel. J'ai demandé aussi pardon, que Dieu aussi puisse pardonner ces voleurs. C'est que ma papy, c'est juste de voir, ils ont laissé une machette sur le lit. Politiquement, je vois, c'est déjà un message. Ce n'est pas pour la première fois. Maintenant, je suis la 4e personne, si je ne me trompe pas, d'être attaqué par les bandits. Et surtout sur moi, ils ont tout pris, comme ils ont pris aussi le collègue Pierrot de la commune Tchopo. Je comprends peut-être, ils voient, c'est comme si que nous avons de l'argent, mais nous n'en avons pas. Vous le savez très bien, récemment ici, nous venons de faire une marche pacifique pour demander que les autorités centrales puissent prendre la responsabilité de payer les conseillers communaux que je suis en train de demander, surtout une bonne sécurisation pour tous les conseillers de la ville de Kisangani en fait.
On enchaîne avec le Sud Kivu où 45 abris des sinistrés de Calais ont été détruits par une forte pluie accompagnée d'un vent violent dans les sites Amani de Bouchouchou. Plusieurs autres dégâts matériels causés par la pluie du mercredi au jeudi sont signalés. Les sinistrés des sites environnants, y compris ceux de Tchangouré, sont en état d'alerte. Delphine Birimbi, président du cadre des concertations territoriales de la société civile de Calais, lance un cri d'alarme à travers le micro de Jean Kassami.
Une forte pluie diluvienne accompagnée de vents violents s'est abattue sur une partie du territoire de Calais la nuit du mercredi 11 jusqu'à la matinée du jeudi 12 septembre 2024, étant à la base de la destruction de plus de 50 abris de sinistrés à Katachola et dans le sud de Mouchonezo. Nous demandons au gouvernement avec ses différents partenaires de songer à venir en aide à cette catégorie de la population et mettre en place des stratégies pour des solutions à la question de la délocalisation définitive pour les sinistrés qui n'ont jamais vu leur site de la délocalisation définitive.
Merci de nous recevoir dans la province de Lomami qui enregistre son premier cas de la maladie de Mpox appelée autrement variole des singes. L'information est confirmée par le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim à travers une déclaration faite à la presse hier. C'est une correspondance d'Esterne de la Fina rendue par Jacques-Yves Molima Aouta.
Le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Célestin Kayembe, a indiqué que ce premier cas est détecté dans la zone de santé de Kabinda, plus précisément dans l'aire de santé de Kumba au village Kampoto 2. Outre ce cas confirmé, le vice-gouverneur a révélé que 24 autres cas sont déclarés suspects. Les échantillons ont été déjà envoyés à l'INRB et les résultats sont encore attendus. Parmi ces cas, 8 cas identifiés dans la zone de santé de Kabinda, 6 dans la zone de santé de Kamana, 5 dans la zone de santé de Mweneditu, tandis que les zones de santé de Kalambai, Kalonda Est, Makota, Ludimbi, Lukula et Mulumba enregistrent chacune un cas suspect. Face à cette situation, le gouverneur ad intérim appelle la population à observer rigoureusement les mesures d'hygiène pour limiter la propagation de cette épidémie. Il a par ailleurs invité ses administrés à se rendre au centre de santé les plus proches pour une prise en charge en cas de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et apparition des boutons sur tous les corps.
Revenons un instant à Ituri. Une centaine de jeunes à risque, dont 50 femmes vulnérables, bénéficient depuis 3 mois d'une formation sur l'aquaculture grâce à un projet de la MONUSCO à Tchomia. Nous sommes à 60 km au sud-est de la ville de Bounia. Selon les réseaux des associations pour le développement durable RAD qui exécutent ces projets, l'objectif est de permettre à ces jeunes d'avoir une occupation rentable pour se mettre à l'abri des tentations des groupes armés et du banditisme. Martial Kiza Biamungu, qui revient à la charge, a visité les lieux des fabrications des cages flottantes pour l'insémination artificielle des alevins. Voici son reportage.
Nous sommes devant le lac Albert et le midi sous un soleil accablant. Des femmes et des hommes habillés en salopettes, casquettes de protection sur la tête apprennent différentes techniques d'aquaculture, dénutrition, halieutique pour les alevins améliorés. Claude Ouyergui, l'un des bénéficiaires, salue cette initiative de la MONUSCO qui, selon lui, leur permettra de trouver les moyens financiers pour servir à leurs besoins.
Merci à la MONUSCO pour ce travail bénéfique pour nos enfants. Personnellement, j'étais chômeur et maintenant, j'ai un travail qui va aider ma famille.
Chaque cage mesure 5 mètres carrés pour contenir 12 000 alevins monosexes. C'est pour permettre l'accroissement rapide des poissons sans étouffement. Florent Zama, responsable de l'ASBEL RAD qui exécute les projets, parle du fonctionnement de ces cages.
Nous aurons une cage multiplicateur des alevins. Dans les cages, il y aura des filets.
D'une valeur de 99 000 dollars américains, ces projets CVI une réponse au relèvement communautaire, mais aussi une contribution à la stabilisation de la zone de Tchoumia à travers l'encadrement des jeunes à risque et femmes vulnérables victimes de violences des groupes armés. Des retours de Tchoumia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la ville de Beni au nord Kivu, au moins 50 femmes apprennent à fabriquer du savon depuis le début de ce mois. Initié par le centre d'apprentissage des métiers Kazimbele, cette formation vise à doter les apprenants majoritairement composés de personnes déplacées d'un métier en vue de leur autonomisation. Marc Marofimbo signe ce reportage.
Ces personnes, dont 48 femmes et 2 hommes, sélectionnées pour la première édition de cette formation, proviennent des entités de la partie ouest du territoire de Beni sous menace sécuritaire. Pour Espérance Maskavia, apprenante, c'est un métier pour la vie.
Ce métier va beaucoup nous aider, nous femmes. Quand nous allons vendre nos savons, nous ne manquerons pas de l'argent pour subvenir à nos besoins. Nous autres qui avons fui de Mahou, on n'avait rien comme métier. Déjà, les stress de la guerre prennent fin et nous avons déjà une bonne connaissance du métier.
Pour la responsable du centre d'apprentissage de métiers, c'est une manière de combattre la pauvreté et le chômage. Ange Bambou.
Nous demandons l'appui de tous pour la réussite de ce projet afin de chasser la pauvreté. On n'a pas besoin de nous embrouiller avec les cosinus, des sinus que nous ne rencontrerons nulle part dans la vie.
Signalons que cette première édition va durer 3 mois. La seconde, déjà programmée, va s'étendre aux entités du territoire de Beni. Ce projet du centre d'apprentissage des métiers Kazimbele bénéficie de l'appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR ainsi que l'ONG AVSI. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
C'est un soutien des poids que vient de recevoir l'Afrique aux Nations Unies. Les États-Unis se disent favorables à l'ouverture des 2 sièges permanents réservés à l'Afrique au Conseil de sécurité. C'est l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU qui a annoncé ce soutien aux pays africains hier jeudi.
L'invité.
Depuis 2 mois, l'accès à l'eau potable est devenu extrêmement limité dans le site des déplacés de Don Bosco au nord de la ville de Goma. Ceci expose les déplacés à un risque accru de contamination par le virus de Mpox déjà présent dans les sites. Le président de ce site qui abrite plus de 4000 ménages, soit environ 20 000 personnes, appelle à une intervention urgente. Sans eau potable en quantité suffisante, les déplacés ne sauront pas faire face à cette épidémie. Justin Kamana est l'invité de ce journal. Il explique la situation dans son site, dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Justin Kamana, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de votre camp de déplacés, vous déplorez l'insuffisance d'eau potable et les conséquences que cela peut avoir sur la vie des déplacés.
Depuis que nous sommes ici, nous avions une consommation normale de 120 mètres cubes chaque jour. Et les 120 mètres cubes étaient fournis par des partenaires, notamment Imegrarac 80 mètres cubes et aussi Caritas 40 mètres cubes. Il y a 2 mois que Imegrarac a fini son projet et qu'aujourd'hui nous sommes butés à un problème de manque d'eau parce que c'est Caritas qui a résisté jusqu'aujourd'hui avec les 40 mètres cubes qui sont vraiment insuffisantes. Et ça pose problème au niveau de l'hygiène, surtout des toilettes et l'eau de ménage. Et avec l'épidémie qui a surgi de Mpox, c'est vraiment un problème puisque au niveau du cas de Don Bosco, vous pouvez remarquer que il y a quelques cas même qui sont confirmés, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des échantillons qui ont été confirmés. C'est vraiment un grand problème parce qu'avec la manque d'eau, nous n'avons pas moyen autre de faire l'hygiène des toilettes, mais aussi l'hygiène corporelle, ça dépend de l'eau. Avec ça, il s'ajoute aussi des toilettes qui sont pleines, qui ne sont pas vidées depuis le mois de février. Et que d'autres toilettes aussi se sont ajoutées. Sur 140 toilettes, nous avons au moins 60 portes qui sont fermées et que aussi les toilettes sont insuffisantes. Alors nous voyons qu'avec ces conditions, l'épidémie va s'étendre très facilement dans notre camp de déplacés.
En parlant des cas confirmés, vous n'avez pas les nombres exacts à la date d'aujourd'hui?
Des cas confirmés au niveau de chez nous, c'est 4. Mais il y a plusieurs cas qui sont en examen, bien sûr, et quelques-uns seront confirmés d'ici là. Et même aujourd'hui, le matin, nous avons remarqué qu'il y a des cas suspects qui sont en examen ici au poste de Don Bosco. C'est vraiment un grand souci avec la manque d'hygiène et la carence d'eau et même les toilettes qui sont devenues très limitées.
Et dans ces conditions, quelles sont les dispositions que vous prenez pour essayer d'assurer un peu les bonnes conditions hygiéniques au niveau de votre camp?
Nous avons Save the Children qui a recruté les relais communautaires pour sensibiliser la population. Mais aussi, il y a Hors de Relief aussi qui a recruté quelques relais communautaires pour faire la sensibilisation et voire même installer quelques points de lavage de mains. Ce sont ces deux organisations qui nous aident à sensibiliser les déplacés pour éviter l'épidémie de Mpox.
Les personnes qui sont confirmées et les contacts des malades, quelles sont les dispositions que vous avez ici pour limiter la propagation de la maladie?
Nous avons un partenaire au niveau de la santé qui est Save the Children, qui collabore avec les postes de santé du centre des jeunes de Don Bosco. Ils ont vraiment pris des mesures pour isoler les malades qui sont en contamination avec le virus d'Mpox. Et jusque-là, au niveau de la santé, nous n'avons pas un grand problème les partenaires vraiment s'en occupent.
Si vous avez un déficit de 80 mètres cubes, qu'est-ce qu'on fait concrètement, par exemple pour les ménages qui cherchent de l'eau même pour préparer à manger?
De déplacer ce domaine pour vendre leur petite ration, pour trouver au moins 200 francs pour acheter l'eau dans les bornes fontaines dans la communauté.
Quelles demandes adressez-vous aux autorités par rapport à cette difficulté que vous traversez ici?
Surtout à la zone de santé de Karisimbi, qui connaît nos problèmes au quotidien. Les MCZ doivent vraiment s'impliquer pour que nous puissions avoir une quantité suffisante d'eau et aussi mobiliser les partenaires pour vider les toilettes qui nous causent vraiment l'insalubrité au niveau de Don Bosco, mais aussi amener les déplacés à prendre des mesures pour éviter cette épidémie de s'étendre au niveau du cas des déplacés, puisque ça va aller même au-delà dans la communauté.
Monsieur Justin Kamana, je rappelle que vous êtes président de déplacés du camp de Don Bosco. Merci.
Je vous remercie aussi.
Notre invité a été interrogé par Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et Jude Mystère Bilanda. La mise en onde de Pierre Diassinois. Merci de l'avoir écouté.